Il n'y a rien qui fait plus plaisir lorsqu'on prêche quand tout ce qui vient avant vient en soutien de ce que tu as à dire. Ça, déjà, c'est un encouragement parce que tiens, c'est bien, j'ai bien entendu Dieu pour la préparation. Mais ça veut dire aussi que c'est tellement sur le cœur de Dieu qu'il veut le répéter. Et donc, je crois vraiment que ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, ça doit servir à quelque chose pour nous. La parole de Dieu est puissante, c'est efficace. Il y a des choses qui se passent quand on lorsqu'on le prend au sérieux. Donc, et aujourd'hui, je vais vous parler de sacrifice. En fait, je vais vous parler aujourd'hui de sacrifice et la semaine prochaine, je vais aussi vous parler de sacrifice. Mais on va regarder deux choses très différentes dans cette idée de sacrifice. Ce que c'est, ce n'est pas un mot qui est très 21e siècle, faut l'avouer. On n'est pas dans une génération de sacrifice en général. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des sacrifices parfois, mais ce n'est pas quelque chose en général qui caractérise nos vies. Et c'est un mot qu'on doit comprendre parce que la Bible parle beaucoup de sacrifice. Et il y a un verset, si tu peux projeter Hébreux 13, verset 15. C'est quelque chose, selon le Nouveau Testament, qui doit faire partie de notre vie, tous les jours. Vous allez voir, par Jésus, offrant donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Dans la version Louis II, c'est marqué pas qui consiste à célébrer son nom, mais le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc on a deux manières un peu différentes de le voir. Mais c'est un sacrifice de louange. C'est pas la louange, c'est un sacrifice de louange. C'est pas exactement la même chose et on va regarder ça ensemble. Et pour ceux qui connaissent ce verset-là, vous allez savoir qu'il y a une suite. Et c'est la suite qu'on va voir la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, on arrête là au point. Et pour examiner ce que c'est un sacrifice de louange, nous allons explorer un événement dans la vie du roi David. Moi, j'aime bien prêcher sur la vie de David parce que franchement, il a tout fait. Il a tout raté, il a tout réussi, quelque part, en même temps. Et il ne faut pas qu'on oublie que le roi David, il est le résultat, le fait qu'il soit roi, il est le résultat d'une recherche de la part de Dieu pour quelqu'un qui correspondait à ses désirs. C'est ce que la Bible dit. Une autre verset, un homme selon son cœur. Okay? Ça veut dire qu'il correspondait à ce que Dieu désirait. Et si ça c'est vrai, donc si David correspondait au désir de Dieu, à ce que Dieu désirait, nous avons intérêt à savoir pour nos propres vies pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu était tellement content de lui? Parce que, je ne sais pas pour vous, moi je veux être quelqu'un qui correspond à ce que Dieu désire. Peut-être vous, c'est un peu moins... Non? Non? Je suis la seule ici dans la salle qui a eu... Allez, c'est les... Ouais! Moi aussi! Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons considérer l'attitude de David, qui est ce grand adorateur, envers cette idée de sacrifice. Ça veut dire quoi un sacrifice de louange? Et sacrifice pour David, c'était quoi? Et l'histoire que nous allons lire ensemble, c'est une histoire qui apparaît deux fois dans la Bible, dans deux endroits différents. Il y a une version de l'histoire en 2 Samuel, pardon, chapitre 24. Il y a aussi, l'histoire est aussi racontée en premier livre de Chroniques, chapitre 21. Et quand Dieu se répète, bah c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, quand Dieu se répète, c'est parce qu'il veut vraiment qu'on comprenne quelque chose. Je vous ai déjà dit, je sais très bien avec mes étudiants, on nous enseigne même à la formation, il faut dire quelque chose 8 fois avant que ça entre, d'accord? Donc là, Dieu le dit 2 fois, donc il faut qu'on le lise 4 fois pour que ça rentre. Donc je fais pas d'excuses si je me répète, c'est pour votre bien. Ce que nous allons faire, nous allons prendre le passage en première chronique 21. Mais je vous donne un peu de contexte d'abord, parce que je sais que parfois dans les histoires de l'Ancien Testament, surtout si on connaît pas très bien l'Ancien Testament, on peut être un peu perdu. Donc, je vous donne un peu le contexte. David est roi depuis plusieurs années. Ok, il est bien établi en tant que roi. Mais il se trouve à un moment de sa vie où il vient de prendre une très mauvaise décision. Qui n'a jamais passé par là? Qui n'a jamais pris une très mauvaise décision? D'accord, donc jusqu'à là, on peut bien s'identifier avec David. Et le pire, c'est que son premier ministre lui avait dit, ça, c'est une très mauvaise idée. Mais il l'avait fait quand même. D'accord? Et ce que son premier ministre lui disait, c'est que cette action, si tu fais ça, cette action va mettre le pays d'Israël en faute devant Dieu. Donc en fait, tu vas faire pécher ton peuple si tu fais ça. Mais bon, David, je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais il avait insisté quand même. Qui n'a jamais insisté dans un mauvais chemin lorsqu'on savait très bien, tout le monde disait non, 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 il ne faut pas faire ça. Okay? C'est ce que David avait fait. Et le problème, c'est que Dieu est juste. Et donc, si le pays pêche à travers ce que David a fait, bah, qu'est-ce qui va se passer? Un Dieu juste va dire, bah, il doit y avoir une punition. C'est Dieu est juste. Péché, punition. On sait très bien que c'est ça la justice. Il faut que les actes sont suivis par les conséquences appropriées. Mais dans cette situation-là, Dieu donne à David le choix de punition. Il dit, bon, ok, il faut que tu as fait pécher le pays et je dois punir le pays, mais je te donne trois possibilités et toi, tu vas choisir. Quelle est la punition que le pays va subir? Donc, première option qu'il donne, Dieu dit, bon, je vais permettre à l'environnement, la nature de se lever contre le peuple. Il y aura 3 ans de famine. D'accord? Première punition, 3 ans de famine pour le pays. Deuxième possibilité, Dieu dit, je vais permettre à vos ennemis, donc à l'époque c'était plutôt les Philistins, mais bon, il y avait d'autres aussi, je vais permettre à vos ennemis de remporter les victoires contre vous pendant 3 mois, avec tout ce que ça entraîne. Alors, quand l'ennemi arrive, fait des ravages, pendant 3 mois, bah, qui sait ce qui va se passer? Okay? Ça, c'est la deuxième option. Troisième option, Dieu dit, je vais moi-même punir le pays. Ce ne soit pas un truc naturel, ça ne va pas être, je ne vais pas utiliser quelqu'un d'autre pour le faire. Mais ça va être moi. Et le verset 12 dit que l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Et ça allait durer 3 jours. Okay? Donc voilà les options. Vous êtes David. Vous dites quoi? 3 ans de famine, 3 mois où vos ennemis font tout ce qu'ils veulent avec vous, votre peuple et votre pays, ou 3 jours où l'ange destructeur de Dieu passe au-dessus de tout le territoire de votre pays et frappe les gens avec la peste. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas convaincue que j'aurais su quoi faire dans ce cas-là. Je vois déjà les... C'est quoi la bonne réponse? Avec le problème avec le péché, c'est qu'il n'y a jamais de bonne réponse. S'il n'avait pas péché, il ne serait pas dans cette situation-là. Donc, il n'y a personne qui dit qu'il y a un qui est une bonne chose dans cette situation. Mais David, dans cette situation terrible, il fait quelque chose de très sage. C'est la première chose sage qu'il fait depuis un certain moment. Mais ce qu'il dit, je vais choisir de me mettre et de mettre le pays entièrement à la merci de Dieu. Entièrement à la merci de Dieu. Et on va lire la suite de l'histoire. Donc, c'est 1 Chronique 21 à partir du verset 13. Et c'est David qui parle. Il dit, « Ah, que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël et 70 000 Israélites moururent. Donc 70 000. Vous imaginez. Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la ravager. Mais comme celui-ci ravageait la ville, l'Éternel regarda. Alors il ne voulut pas ce malheur. Il ne voulut pas. C'est pas parce que Dieu voulait ce malheur pour le peuple que ça s'est fait. C'est parce que Dieu est un Dieu juste. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il dit non, il voulut pas ce malheur, il renonça. Il ordonna à l'ange destructeur, cela suffit maintenant. Cela suffit maintenant, retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air d'Ornan, le Yébousien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre la terre et le ciel, son épée dégainée à la main, brandie sur Jérusalem. Juste imaginez un instant ce que ça fait. Vous levez les yeux et entre la terre et le ciel, il y a un ange. Je ne sais pas la taille de cet ange-là, mais on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est de ma taille. C'est entre le ciel et la terre et l'espace est rempli d'un ange avec une épée, comme ça, et c'est brandi. Je ne sais pas pour vous, moi, ça fait un peu peur. OK? Et donc David, et c'est ça qu'il voit. Aussitôt, David et les responsables, revêtus d'habits de toile de sac, tombèrent sur leur face. Moi aussi, j'aurais fait pareil, je pense. David prie à Dieu en disant, « C'est moi qui ai ordonné le recensement du peuple. C'est moi seul qui ai péché. C'est moi qui ai commis une faute très grave. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal ? Éternel mon Dieu, frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille, mais que ce fléau ne s'abatte pas sur ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad, Gad c'était le prophète à la cour à ce moment-là, donc l'ange de l'Éternel dit à Gad d'ordonner à David de monter à l'aire d'Ornan, le Yébousien, et d'y dresser un autel à l'Éternel. David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Ornan, qui était en train de battre du blé, s'était retourné et avait vu l'ange. Imaginez ça, vous êtes sur votre lieu de travail, vous travaillez tranquillement, vous vous retournez comme ça, il y a une ange comme ça avec une épée dégainée. Qu'est-ce qui se passe? Ses quatre fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Pas bête les fils, je trouve. Lorsque David arriva auprès de lui, Ornan leva les yeux et le vit. Il sortit de l'air et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Et David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de ton aire contre sa pleine valeur en argent, pour que je puisse y bâtir un autel à l'Éternel. Oui, cède-le-moi, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends mon terrain, et que mon seigneur le roi fasse qu'il jugera bon. Regarde, je te donne aussi les bœufs pour les holocaustes. Les herses fourniront le bois. Et voici le blé pour l'offrande végétale. Et je te donne tout cela. Je te donne. Ornan, c'est pas un radin. OK? Prends. Tu as besoin? Prends. » Mais le roi David lui déclara, « Non. Je veux te l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. » Ça, c'est la réponse de David. Et David donna à Ornan 600 pièces d'or. Alors, si on parle d'argent aujourd'hui, on est en train de parler de 250 000 euros, à peu près. Donc, c'est pas rien. Mais là, on voit vraiment la générosité d'Ornan. C'était pas, oui, prends un petit... Non, c'est quelque chose qui valait 250 000 euros. Et Ornan dit, prends-la. Donc David a payé pour ce terrain. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Ça, c'était le signe que Dieu recevait le sacrifice. Donc, pas besoin de sortir les allumettes. C'est le feu qui descend et Dieu dit, ça je vois, ça je prends. Je le reçois, c'est un bon sacrifice. Puis l'Éternel ordonna, donc c'est après ça, l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée au fourreau. Et j'imagine que tout le monde faisait... Dès cette époque-là, comme David avait vu que l'Éternel avait exaucé sa prière sur l'air d'Ornan, le Yebousien, il se mit à y offrir régulièrement des sacrifices. Okay? Donc ça c'est notre histoire, notre événement dans la vie de David. Donc première chose que je veux vous dire, c'est que Dieu cherche les personnes selon son cœur. Ça on a déjà vu. Donc les personnes qui correspondent à ses désirs. Il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche d'autre? Est-ce que quelqu'un peut me citer un petit verset qui dit ce que Dieu cherche? Ou plutôt, qui est-ce que Dieu cherche? Il est à la recherche de qui? Les adorateurs. OK? Ça vient de... Voilà, contrôle surprise. Ça vient de Jean 4. Oh, vous êtes tous stressés là, je sais que c'est les vacances, il y a le cerveau qui... Oui, la Bible, Jésus, c'est Jésus lui-même qui nous dit que le Père cherche les adorateurs. Donc si Dieu cherche les hommes, les femmes qui correspondent à ses désirs, et s'il cherche les adorateurs, on peut quelque part faire un lien entre les deux. Okay? Être un adorateur, ça correspond à ce que Dieu veut pour nous. Et notez bien, c'est les adorateurs qu'il cherche, ce n'est pas de l'adoration qu'il cherche. Ce n'est pas marqué, je veux l'adoration. Je vous ai déjà dit, je pense, dans une prédication précédente. Mais les mots, le fruit de nos lèvres, comme on a vu au début, ça ne valent pas à grand chose sans la personne. Parce que Dieu, il s'intéresse aux adorateurs. C'est un Dieu relationnel. Ce n'est pas un Dieu qui aime cocher les cases. On m'a dit que je suis beau, on m'a dit que je suis grand, on m'a dit que je suis glorieux, on m'a dit que... Non. C'est, j'entends des mots, mais c'est toi que je regarde. C'est toi que je cherche. C'est ton cœur qui est en train de battre comme ça pour moi. Ça m'intéresse. OK? Et David, homme selon le cœur de Dieu, ben c'est pas quelqu'un de parfait, on sait très bien, mais c'est quelqu'un qui sait s'humilier devant Dieu. Et le péché dans sa vie n'était pas une excuse de ne pas louer Dieu. Il ne disait pas, je peux pas louer Dieu parce que j'ai péché. Non, le péché c'était quelque chose qu'il réglait de manière systématique pour qu'il puisse louer Dieu. Et ça c'est important. Et à ce moment de sa vie, David, il a déjà vécu ces histoires d'adultère, de meurtre, de mensonge. Il a été un mauvais père. Franchement, il a coché plein de cases sur la fiche pécheur. David, bon, on sait bien, on a déjà entendu les prédications qui parlent de ce qu'il a vécu. Et donc David, il a déjà passé par ces choses-là. Mais malgré ses échecs, il reste un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il sait se repentir. Alors Georges a parlé de ça la semaine dernière. Mais il savait changer et repentir, c'est ça, changer sa manière de penser et de faire pour s'aligner avec la pensée de Dieu. Ça c'est la repentance. Georges a dit la semaine dernière, c'est pas le fait de dire je suis désolé. Okay? Ça c'est le regret, ça c'est la repentance, c'est changer, ça je vais répéter, c'est changer sa manière de penser et de faire pour s'aligner avec la pensée de Dieu. Okay? Et de pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Et dans ce passage-là, on voit que David, en verset 16, David, il est revêtu d'habits de toile de sac. Alors c'est comme si le roi se promenait en sac poubelle. C'était la chose qui était le moins confortable, le moins beau, le moins classe, le moins tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'était une manière de montrer publiquement, j'ai péché, je sais que j'ai péché, et je veux que Dieu voit que j'ai péché. Et donc, c'était une manière de reconnaître son état devant Dieu. Et c'est ce que David et les responsables du peuple avait fait. Et ce qui est important dans tout ça, il n'est pas en train de s'humilier en se disant j'espère. S'il le fait, c'est parce qu'il a déjà confessé qu'il sait que les compassions de Dieu sont immenses. Ça, c'est son témoignage de Dieu. Et s'il s'humilie, s'il dit non, il faut que je change ma manière d'être, de faire, de penser, c'est parce que les compassions de Dieu sont immenses. Et il y croit. Et au cours des années, Dieu s'était révélé à David. Et David connaissait le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait le dire comme ça. Il savait que les compassions de Dieu étaient immenses parce qu'il avait déjà vécu dans le passé. Et il savait aussi que Dieu souhaitait le bien pour son peuple. C'est pas juste moi, c'est aussi le peuple. Donc, sa justice, la justice de Dieu exigeait une punition. Mais la miséricorde de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui est en train de parler lorsqu'il dit à l'ange destructeur en verset 15, ça suffit, retire ta main. Ça suffit. Dieu, il est en train de dire, non, stop. Là, c'est la miséricorde qui va parler. Et Dieu savait que, en fait, parce que le péché, c'était toujours pas compensé. N'oubliez pas, il y avait 3 jours de cette punition à écouler. Et on n'est pas à la fin. Donc, il faut autre chose. Il faut un autre moyen pour compléter cet équilibre avec justice, punition. Et donc, il y a la miséricorde de Dieu qui parle. Il dit non, on va trouver un autre moyen pour régler ça. Et il voulait pas, Dieu ne voulait pas exercer une miséricorde lointaine. On a déjà dit, c'est un Dieu relationnel. Et ce n'est pas simplement qu'il voulait arrêter la douleur du pays, mais il voulait restaurer la communion qui était entre lui et David et lui et le peuple. Parce que n'oubliez pas, on parle d'un peuple qui est dans un état de péché. Mais comment faire avec ce péché? Alors, ce qui se passe, et vous avez vu là, c'est Dieu envoie une invitation. Il envoie une invitation à David. Il dit, viens là où je suis. C'est sur le lieu de ma miséricorde. C'est là où j'ai dit, non, ça suffit. Retire ta main. Il dit, viens. Et dresse un autel. Bon, je ne sais pas pour vous, dresser un autel, ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement aménager l'espace pour apporter un sacrifice. Il fallait faire en sorte qu'il n'y avait rien d'autre qui allait brûler, déjà. En général, ils construisaient quelque chose en pierre pour que, voilà, c'est la sécurité au travail, les normes font qu'on construit son hôtel en pierre. Donc ça c'est dresser un hôtel, c'est simplement aménager l'espace. Aménager l'espace pour pouvoir apporter un sacrifice. Et c'est un sacrifice d'adoration, et c'est important parce que c'est précisé dans le texte que c'est aussi un sacrifice de communion. Il y avait 2 choses que David devait apporter, l'holocauste et le sacrifice de communion. Et le choix de ce lieu, et c'est ça que je trouve génial avec la Bible, c'est qu'il y a tant de références à autre chose, les choses qui se sont passées. Ah ouais, mais c'est ça. Et ce lieu, est-ce que quelqu'un peut me dire, ce lieu, c'était quel lieu? L'ère d'Ornan, le Yébousien qui est en train de préparer son blé. Non. C'est la colline de Moria. Et il y a 1000 ans, à ce lieu-là, et c'est quelque chose qui est raconté dans la Bible, je ne suis pas en train d'inventer les choses, c'est dans la Bible, je vous assure. C'est la colline de Moria, et 1000 ans plus tôt, Abraham est monté là-bas avec Isaac pour apporter un sacrifice. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez que ça allait être très très coûteux pour Abraham. Et Dieu a dit, au moment du sacrifice, qu'est-ce qu'il a dit? Stop. Stop. Et moi, je vais vous donner ce qu'il faut. Donc, on est dans le même... Ce lieu-là, c'est un lieu avec une histoire, avec un héritage de miséricorde, de sacrifice et d'adoration. Et c'est le lieu de communion avec Dieu. C'est le lieu où Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu es prêt à faire. Ok? Tu étais prêt à payer tout. Tu ne comprenais pas. Et j'ai vu ton cœur. Et ici, c'est pareil. Il y a David qui dit, mais c'est moi, punis-moi. Punis pas le peuple, punis-moi. Et on voit le cœur de Dieu, c'est dans la miséricorde. Donc, si vous voulez lire cette histoire-là, si vous ne le connaissez pas, c'est en Genèse 22, là où on va, où Abraham monte avec Isaac pour apporter le sacrifice. Donc, aujourd'hui, Dieu il fait la même chose pour nous. Il dit, viens là où je suis, sur le lieu de ma grâce. Dresse un autel, ça veut dire aménage les choses. Fais de l'espace. Crée de la place il faut pour apporter un sacrifice de louange, d'adoration. Et vous aurez la communion avec moi. Et puis, on arrive vraiment au cœur de ce que je veux partager avec vous ce matin. À l'ère d'Ornan, vous savez, il y a plusieurs adorateurs présents. Il y a souvent on parle de David, mais il ne faut pas qu'on oublie Ornan. Parce que Ornan, il faut savoir, ce n'est pas un Israélite d'origine. Il est décrit, il est un Yébousien. Okay, je ne sais pas qui c'est exactement, mais c'est un des peuples qui était dans le pays avant l'arrivée des Israélites. Et dans l'autre version de l'histoire, on sait que c'est le roi des Yébousiens. Donc c'est quelqu'un qui a la possibilité d'avoir grande influence. Mais ce païen est devenu adorateur de Dieu. Il connaît la loi, il sait ce qu'il faut pour faire un sacrifice agréable à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il dit? David dit, donne-moi ton terrain. Et Ornan dit, non, attends, je vais te donner ça, et ça, et ça, et ça. Et ça. Ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut apporter à Dieu. Il sait ce que c'est un sacrifice de communion. Il sait que c'est pas juste tuer la bête et puis c'est bon. Non, il y a un sacrifice végétal à faire aussi. Il faut du blé. Et donc, Ornan, il est là et... Ça me fait rigoler parfois parce qu'il y a Ornan qui sent que personne lui demande, c'est non, je vais tout donner. Et moi, dans ma tête, je vois Dieu sur son trône en train de dire, ah voilà mon Ornan, toujours à 110% dans la louange, c'est il peut pas s'empêcher, c'est plus fort que lui, c'est non, tout, je l'ai, je te donne. Et c'est génial, franchement, son attitude, c'est génial. Mais Dieu avait déjà trouvé l'adorateur qui est Ornan. Si Dieu cherchait les adorateurs, Ornan, ben, il était déjà là avec. Vous avez vu Shrek, hein? Et il y a l'âne qui fait « Choisis-moi !» Et on a l'impression que l'Ornan, c'est un peu ça. C'est « Qui va adorer le Dieu ?»« Moi !» Mais Dieu, il voulait pas que ce soit quelque chose qui se passe juste chez lui, chez Ornan. Parce que Dieu cherche aussi l'adorateur qui est David. Et toute la bonne volonté d'Ornan ne peut pas remplacer l'adoration que David doit à Dieu. Donc c'était incomplet ce moment-là. Si David avait simplement accepté ce qu'Ornan disait, bah, le sacrifice monte quand même. Mais le problème, c'est que ce n'est pas David l'adorateur dans ce cas-là. Et dans un moment de rencontre avec Dieu où nous sommes plusieurs, notre culte de dimanche, comme aujourd'hui par exemple, il n'y a personne d'autre qui peut apporter la louange que tu dois à Dieu. Ce n'est pas parce que l'équipe de louange a fait du bon travail et que la personne à côté de toi a été à fond dedans que c'était un bon moment de louange. Parce que personne ne peut donner à Dieu ce que toi, tu dois à Dieu. Ça va? C'est bon? Vous me croyez? Ok? Et ta louange, c'est toujours ta responsabilité personnelle. Toujours. On parle de circonstances, on parle de plein de choses, mais finalement, ça revient à toi. Ça revient à toi. Et Dieu, il est à la recherche de ses adorateurs. Et dans n'importe quel moment, dans la louange collective comme on a aujourd'hui, tu vas manquer à Dieu si tu ne réponds pas présent à l'appel. Tu vas manquer à lui. Et la présence de plusieurs ornanes dans le culte ne compense pas à Dieu pour l'absence éventuelle des David. Dieu, il n'arrête pas de chercher les adorateurs. Il n'arrête pas. Il regarde la Bible, je pense que c'est en 2 Chroniques 16, il dit que les yeux de Dieu parcourent la terre pour chercher ceux qui ont le cœur qui est pour lui sans partage. Donc Dieu, il a un scanner en permanence qui fait zzz, ding, 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 et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc, comment être un David? Parce que David, on sait que David, c'est un adorateur. Quand même. Il y a peu de monde dans la Bible qui sert d'exemple de louangiste, louangeur, adorateur, bon, comme lui. Donc, comment être un David? David, d'abord, il reconnaît l'invitation. Okay? C'est le prophète qui lui parle. Et il y a un appel à apporter un sacrifice. Et qu'est-ce que David fait? Il monte. Il dit, bon, on y va. Je vais sur le lieu où Dieu m'appelle à être, sur le lieu de miséricorde. Et face à la générosité d'Ornan, il sait très bien que s'il n'y a pas de coût pour lui, ce n'est pas vraiment un sacrifice. S'il n'y a pas de coût pour lui. Il dit, je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient. Tu ne peux pas apporter ma louange à Dieu. Là, on parle plutôt de moments de louange collectif, mais imagine comme on a fait avec les offrandes tout à l'heure. Je descends, je dis, Arnaud, t'as 10 euros dans ta poche? Et Arnaud dit, oui, t'en as besoin, il me donne, et puis je viens et je mets ça dans l'offrande. Dieu, j'ai 10 euros pour toi. C'est pas logique, c'est pas moi qui ai donné 10 euros à Dieu, c'est Arnaud qui l'a fait. Et c'est un peu cette idée-là, mais dans un sens beaucoup plus large. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'Holocauste était le sacrifice de l'Ancien Testament où l'animal entier était offert à Dieu. Et il y avait d'autres sacrifices où il y avait une partie que c'était pour les prêtres, une partie pour les lévites, parce qu'il fallait qu'ils mangent quand même. Mais l'Holocauste, c'était le sacrifice où, non, c'est tout. Tout, c'est pour Dieu. Et Dieu, il voit ça et il le prend. Comme ça. Et c'est le même terme que nous trouvons en Romains 12, verset 1, qui parle de, où Paul, l'apôtre Paul, nous dit, à cause de cette immense bonté, donc on a ce mot immense encore. David parle des immenses, de la compassion immense de Dieu, et ici Paul parle de l'immense bonté de Dieu. À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Et bien sûr, écoutez-moi bien là, parce que je ne veux pas que vous racontiez n'importe quoi après. Je sais très bien que le champ d'application de ce verset est beaucoup plus large que ce qui se passe ici le dimanche matin. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que ce verset s'applique simplement dans le contexte que je vais vous donner, mais ça s'applique aussi dans le contexte que je vais vous donner. Et lorsqu'on parle de nos moments de louange collective, et c'est c'est vraiment le cœur de ce que je veux vous dire aujourd'hui, je veux insister sur le fait que Paul ne parle pas de notre esprit. Il ne parle pas de notre cœur. Il dit, c'est ton corps. C'est ton corps qui est le sacrifice. Ça ne veut pas dire que l'esprit et le cœur ne sont pas aussi engagés. C'est très difficile d'engager ton corps dans quelque chose où l'esprit et le cœur ne sont pas déjà. Mais il dit, offrez votre corps, votre bouche, vos mains, vos genoux, vos jambes, tout ce que vous avez, à Dieu pendant votre culte. Parce que la louange, Ça commence ici, à l'intérieur, mais ça se manifeste dans votre corps. Et Dieu nous a donné les trois parties. Et les trois parties, on a dit, c'est l'animal entier. Okay? C'est l'animal entier. Et donc, lorsqu'on parle de coût, parce qu'on ne peut pas avoir un sacrifice s'il n'y a pas un coût. Vous êtes d'accord? Okay? On parle de quoi exactement? Parce que Dieu n'exige pas qu'on paye pour le louer. C'est pas que vous entrez, vous achetez votre billet de culte, et c'est voilà, 15, Alex, 15 euros. Chanel, bah, parce que c'est toi, 10 euros. Il n'y a pas de, c'est pour ça que les églises sont gratuites. Okay? On ne peut pas demander un paiement. C'est pas ça le coût dans un sacrifice de louange. On n'arrive pas chacun avec son mouton. Ça, ce serait très désagréable. Mais c'est très simple de calculer le coût. Finalement, c'est très simple parce que Dieu veut tout. Donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de prix fixe, mais c'est tout ce que tu as et tout ce que tu es. C'est ton sacrifice de louange. Parce que si on va offrir l'Holocauste, si on va offrir ce que Dieu veut, bah, c'est tout. C'est tout. Dieu ne négocie pas avec ce genre de choses. L'Holocauste, c'est l'Holocauste. C'est tout. Okay? Et je veux simplement vous donner quelques exemples. Parce que je sais que parfois, on parle de coûts de choses et tout de suite, on pense à argent. Je suis pas du tout en train de parler argent, là. Le simple fait de votre présence au culte peut être un coût. Alors, nous ne sommes pas dans un pays persécuté. Je ne suis pas en train de parler de ce genre de coût non plus, parce qu'on sait très bien qu'il y a les pays où même essayer de se voir avec d'autres chrétiens, mais le prix qu'on doit payer parfois, c'est énorme. Donc, on n'est pas dans ce contexte-là. Mais il y a quand même un coût. On vous dit souvent, il y a l'exhortation en Hébreux 10 qui dit de ne pas délaisser les cultes. Ne pas délaisser les cultes où on se voit ensemble pour louer Dieu, pour recevoir un enseignement, parce que c'est là pour nous encourager à grandir dans les choses de Dieu. Et si ça te coûte d'être là ce matin, si ça te coûte, ça peut être le temps. Peut-être vous avez 15 000 autres choses que vous auriez pu faire dans les 3 heures qu'on est ensemble. Je vois que Claude, il est, ouais, j'ai un mur à construire. On a le temps. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Peut-être que c'est simplement l'organisation. Si vous avez 3 enfants, j'imagine que le dimanche matin peut être, surtout quand ils sont aussi jeunes que ça, un tout petit peu stressant parfois. Mais si on a envie d'être là avec ses enfants au culte, il y a un coût. C'est en mettant de côté d'autres activités. C'est pas facile. Si vous êtes un sportif, le dimanche matin, c'est très difficile de te libérer pour faire partie d'un culte. C'est un coup. Parfois, c'est la grâce matinée. C'est la grâce matinée. Ou c'est le soleil. On voit une matinée comme ça aujourd'hui. On se dit, oh, c'est dommage quand même de rester 3 heures à l'intérieur. Quand je pouvais être dans mon jardin, sur la terrasse, en train de boire un petit café. Là, je peux communier avec mon Dieu. Là, je sens l'appel. Je voyais pas mal de personnes qui disent, ouais, ça coûte. Mais vous savez, je rigole un peu là, mais quand j'avais commencé dans l'enseignement, nouveau prof, nouvelle école, emploi du temps pourri. Pourri, je vous assure. J'avais les cours à 8 heures, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parce qu'il n'y a personne qui veut faire les cours à 8 heures le matin. Donc, petit nouveau, chouette. On va balancer tout ce qu'on n'aime pas dans nos emplois du temps, dans son emploi du temps. Et quelqu'un m'avait dit, moi, c'est pas grave parce que tu as le dimanche. Et j'ai passé, heureusement, ça a duré 3 mois. Et pas plus longtemps que ça, parce que les choses ont changé. Mais pendant 3 mois, je ne peux pas vous expliquer ce que ça faisait, le coup, de me lever un dimanche matin. Mais je savais que si j'allais apporter un sacrifice de louange avec la communauté de Dieu, il n'y avait pas question que je reste à la maison. Pas question. Et j'étais crevée. Mais Dieu m'a soutenue. Et j'ai tenu bon. Mais donc, c'est juste, parfois, les choses qui semblaient plus simples de la vie, ça peut être un coup. Ça peut être un coup. Mais c'est quand tu choisis quand même d'être là, malgré les différentes choses qui pouvaient jouer, c'est là où Dieu dit, non mais en fait, dès que tu montais dans le métro, ta louange avait déjà commencé. Parce que le sacrifice était déjà là. Ce qui se passe par la suite, on chante, on voit les gens, on entend la parole, là, c'est aussi la louange. Mais la louange commence dès que tu fais le sacrifice, dès que tu apportes ce qui te coûte. Deuxième exemple, et je sais qu'on est quasiment tout touché par ces choses-là, moi en premier. Il y a des personnes qui vivent ou qui ont vécu des circonstances très, très difficiles. Et ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être une dure épreuve d'une autre un autre type. Et parfois, nous avons si peu de force et si peu de courage, et parfois la douleur est si forte que c'est tout un combat pour venir. Et surtout parce que on craint les paroles, les mots de nos chers frères et sœurs en Christ qui, parfois, ils essaient de nous encourager. En fait, ça, c'est exactement l'opposé de ce qu'on avait besoin d'entendre, et c'est parce qu'on veut bien faire. Moi, je suis sûre, je m'excuse maintenant si déjà je vous ai dit quelque chose et c'était très, très mal choisi pour le moment. Ça arrive. Ça arrive. Mais parfois, on a tellement peur de souffrir encore plus en venant qu'on vient pas. Et parfois, on est dans un culte. Et il y a le leader, je suis coupable. Et on dit, allez, on va chanter, béni soit le nom du Seigneur sur la route semée de souffrance. Vous savez, quand vous êtes bien, c'est très facile de chanter ce chant-là. Quand vous êtes mal, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a les gens qui se sentent anéantis devant ce genre de chant. Parce que c'est souffrance. Bah, j'arrive même pas. Et je veux vous partager quelque chose qui m'est arrivé, c'était quand on était en Angleterre. Je m'excuse maintenant si je pleure, parce que je pleure toujours, parce que je vois la bonté de Dieu dans cette histoire-là. Donc c'est pas parce que je suis triste, rassurez-vous. Mais c'est quelque chose qui me parle, parce que ça montre à quel point Dieu voit le coup. Et c'était quand on était en Angleterre dans l'église et on vivait une période dans l'église où la direction voulue par l'équipe pastorale, c'était ce qu'on appelle en anglais high praise. C'est-à-dire, on saute sur les chaises, on danse, on crée des hondes, wouh! Et c'était comme ça, mais tout le temps. Tout le temps. C'était pas, ou deux chants comme ça et puis on va se calmer. C'était, non. La direction du leadership, c'est là que Dieu nous appelle à faire en ce moment. Et donc, pour les gens comme moi, pour les leaders de louange, c'est ce qu'on lidait, c'est ce qu'on menait pour l'église. Et il y avait de bons moments. Je suis pas là pour critiquer le principe. Mais, il y avait un jour, et on était là, l'équipe est prête. Moi, j'étais leader de louange ce jour-là. Et l'équipe est prête. Et puis Dieu me dit, aujourd'hui, tu vas démarrer avec « C'est par la grâce que nous venons ». Est-ce que tout le monde connaît ce chant-là? C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Bon, on va pas. Mais vous voyez, c'est pas vraiment un chant qui entre dans le spectre de chants très vifs. Okay? Mais le Saint-Esprit, c'était bizarre parce que c'était tellement clair et tout ce que je pouvais me dire, c'était mais qu'est-ce que le pasteur va dire après? Parce que la directive, c'était clair. Mais je dis bon, j'étais tellement convaincue que c'était le Saint-Esprit. Je dis bon, on y va, je vais m'expliquer au pasteur après. Parce que j'avais vraiment peur que si je demandais la permission, qu'il dit non, on est là dans les hautes louanges, donc je vais m'expliquer après. Tout le monde, l'église se lève et puis l'équipe de louanges commence avec c'est par la grâce que nous venons. Et on arrive à la troisième ligne. Non par nos forces ou nos efforts. Il y a une dame, juste à peu près là où est Thierry, et elle s'effondre en larmes, mais vraiment des sanglots, c'était fou à voir. Et après, on est parti dans les chants de louanges, on dansait, on criait quand même. Donc c'était pas qu'on continuait, mais c'était le premier chant qu'on avait fait. Et après le culte, cette dame est venue me voir. Et elle m'a dit, bon, je me souviens plus de ces mots exacts, mais c'était à peu près. Je sais pas comment tu savais ce que je disais à Dieu ce matin. Mais j'avais dit à Dieu que je ne sais plus à quoi ça sert de venir. Je ne sais même pas si tu vois que je suis là. Je ne sais même pas. Mais ma vie est si difficile. Depuis si longtemps. Et si je dois encore essayer de danser, de sauter sur les chaises, de crier combien Dieu est bon, si je dois encore faire ça, je ne vois pas l'utilité d'être là. Et honnêtement, je ne pense pas que je te manquerai. Je ne pense pas que je te manquerai. C'est ça qu'elle m'avait dit. Et puis, mais elle sourit comme ça. Et puis, elle dit, mais maintenant, je sais que Dieu voit que je suis là. Il voit que je suis là. Et je sais que je lui manquerais si je n'étais pas là. Parce que vous savez, Dieu comprend le coup. Dieu comprend le coup. Et il le reçoit comme un sacrifice. Il reçoit comme un sacrifice. Et c'est un parfum qui est agréable pour lui. Et Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient à notre rencontre. Lorsqu'on arrive à lui donner les choses qui sont les plus coûteuses, les choses les plus coûteuses pour nous, Dieu y vient. Il dit ça, je prends. Ça a de la valeur pour moi. Et peut-être tu ne le vois pas. Peut-être tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Et tu ne sais, peut-être ton voisin est dans ce cas-là. Parfois, en tant que chrétien, on peut vraiment juger. On dit, oh, mais Antoine, n'es-tu pas vraiment dedans aujourd'hui? Peut-être le fait qu'il soit là, c'était la chose la plus coûteuse pour lui. Donc il faut qu'on fasse attention. Lorsqu'on a un regard sur nos frères, nos sœurs, ici, parce que nous ne savons pas toujours le coût que la personne est en train de payer. Mais Dieu voit. Dieu voit. Et il le reçoit. Mais là, je viens de vous donner deux exemples. Un peu triste quand même. Oh, c'est dur d'être là. Vous savez, il y a des personnes qui ont envie d'être là. Il y a toujours des personnes dans l'assemblée qui sont contentes d'être là. Toujours. Elles n'ont pas d'épreuves, pas d'inquiétudes particulières. C'est, voilà, la vie, ça va. Sauf, peut-être, une petite inquiétude, et c'est le fait d'être un peu trop visible aux autres. Peut-être. Et si tu es cette personne-là, tu crains un peu le regard des autres. Tu n'oses pas trop apporter le sacrifice de louange que vous voulez parce que je ne suis pas seule. C'est facile quand je suis seule dans ma chambre, mais c'est plus compliqué quand je suis avec tout le monde. Parfois, le coup pour toi, c'est simplement de dire oui à Dieu. Lorsqu'il te pousse, par exemple, vers une expression physique de la louange que ben, tu es un peu moins à l'aise dedans. Et ça peut être un coup. Mais quand tu peux te dire que l'obéissance à l'encouragement de l'esprit est plus importante que la vie des autres, là, dès que tu fais ce choix-là, tu le reçois comme un sacrifice de louange. Parce que c'est là le coup. C'est là le coup. C'est pas les mots qui sont en train de sortir de votre bouche. Et puis le dernier cas. Quel est le coup pour quelqu'un qui a envie d'être là, qui n'est pas freiné par le regard des autres, qui ferait bien des roues, éventuellement, si Dieu dit, allez, Alex, fais des roues pour moi. Alex, allez, il se va, je sais pas s'il peut, mais... Il y a toujours des moments, des personnes qui ne sont pas du tout freinées par le regard des autres. C'est, allez, je fonce et c'est bon. Alors, quel est le coup dans un moment de louange collective pour quelqu'un comme ça? Le coup, c'est de ne pas chercher ton propre plaisir. Parce qu'il y a des choses qu'on aime bien faire. Mais vous savez, la louange collective, ça tourne au pas de toi. Ça ne tourne pas autour de toi. Et Dieu veut tout de toi, ne me prenez mal. Dieu veut tout de toi, sois libre dans ta louange. Mais Philippiens 2 nous dit qu'il faut qu'on considère les intérêts des autres. Et donc, ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on soit égoïste dans notre louange. Parce que ça n'est pas agréable à lui quand on est tellement centré sur moi et mon expérience. Dieu veut que tu vives des choses bien avec lui, ça c'est clair. Mais considérez les intérêts des autres, faites de la place pour les autres. Vous savez, pendant ce culte en Angleterre que je viens de vous décrire, il y avait 150 personnes dans la salle qui étaient prêtes à sauter sur les chaises, à faire tout ce qu'il fallait. Ils ont dû attendre un petit peu avant de pouvoir danser et faire tout ça. Parce que l'esprit disait, bah, ça va, ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre 4 minutes. J'ai des choses à faire à travers un champ. Il y a un cœur à soigner. Et si les 150 sont prêts à danser de joie, bah, ils peuvent très bien chanter avec beaucoup de ferveur et reconnaissance. C'est pas la grâce que nous venons. C'était peut-être pas ça qu'ils avaient le plus envie de faire, mais l'esprit disait non. Vous connaissez, il y a plusieurs histoires où on a Jésus qui cherche le un, le seul, celui qui a besoin le plus. C'est pas anormal parfois que les choses dans un culte ne parlent pas forcément comme nous on veut, mais c'est parce que Dieu a parfois autre chose à faire pour les personnes qui ont plus besoin. Et ça, c'est important. Si on est bien dans la présence de Dieu, on peut participer à tout ce que l'Esprit veut faire. Et ça veut dire que si vous êtes hyper bien dimanche matin, soyez attentifs à ce que l'Esprit est en train de dire. Ne vous perdez pas simplement dans votre petit truc. Mais dire, qu'est-ce que Dieu veut faire? La question, c'est toujours, et c'est ça la louange collective, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire parmi nous. On est une communauté. On n'est pas juste une soixantaine d'individus. On est la communauté de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que Dieu veut faire parmi nous? Et peut-être d'un dimanche à l'autre, je vais être plus ou moins impliqué dans ce qui va se passer. Mais ça, c'est important. Et puis, juste pour revenir au dernier point là, on revient à David. Après sa rencontre personnelle avec Dieu sur le lieu de grâce, sur le lieu de sacrifice, sur le lieu d'adoration, On sait qu'il allait régulièrement. On a lu dans le dernier verset. Une fois qu'il avait vécu cette communion avec Dieu dans ce lieu-là, il s'était dit, il faut que j'y retourne. Et après, sa vision commence à s'élargir un peu. Et David commence à s'investir pour que ce lieu devienne le lieu d'adoration de toute la communauté. Et encore une fois, c'est dans l'autre version de l'histoire, mais on voit que sur le coup, là, David avait acheté l'air d'Ornan, mais on voit qu'après, il avait acheté pas mal de terrain en plus qui l'entourait. Pierre, si tu peux mettre le dernier verset. Donc, c'est le début du chapitre suivant. David dit donc, c'est ici que se trouvera le sanctuaire de l'Éternel, Dieu. Et ici sera l'autel pour les holocaustes d'Israël. Et l'adoration et la louange, ça commence chez l'individu. Ça commence chez l'adorateur individuel. Mais Dieu nous appelle à l'adorer en communauté. C'est pas, je connais les personnes qui disent non, mais je suis bien dans ma chambre avec Dieu. Mais il y a un appel à Dieu qu'on soit ensemble pour célébrer ses louanges. Dans le verset très connu de Pierre, je me souviens plus, où il dit, vous êtes une race, une nation, un peuple, une communauté. C'est toujours un collectif. C'est un collectif. Oui, Dieu nous voit en tant qu'individu, mais nous faisons partie d'une communauté et c'est important qu'on ne devienne trop détaché de la communauté. C'est vraiment important de rester bien enraciné dans notre communauté. Et ce que nous apportons chacun ici, par exemple, un dimanche matin, c'est pas que les dimanches matins, mais c'est né pendant les moments où toi, tu es seul sur le lieu de grâce, sur le lieu de miséricorde avec Dieu. Et Dieu vous invite sur le lieu de grâce. Et je vais terminer là. C'est un grâce, c'est rendu possible par le sacrifice de Jésus. Je ne vous raconte pas de nouveautés là. Mais ça, c'est toujours notre lieu de grâce. J'étais super contente quand Antonia avait choisi le chant « Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice ». Tu t'es humilié. Il y avait un moment, encore en Angleterre, j'arrivais pas à chanter ce chant-là sans partir en sanglots. Ce matin, j'ai dit, oh Seigneur, je veux pas que ça arrive pendant ce chant-là, il faut que je reste claire. Mais j'en suis émue, à nouveau. Et c'est vrai, quand on prend le temps de regarder le lieu de miséricorde, le lieu de sacrifice de Jésus, quelle autre réponse l'immense bonté de Dieu, est-ce qu'on peut avoir? Soyons réalistes. On ne peut faire rien d'autre qu'apporter un sacrifice de louange. Si tu as tout donné pour moi, et maintenant, ce qui me coûte, je te donne. Je te donne. Et ce que nous allons faire, juste pour terminer, on va prendre un chant, donc j'aimerais que les autres de l'équipe reviennent. Et pendant ce chant, avant de vous lancer dans les paroles, je vous invite simplement à penser à ce que ça vous coûte. Qu'est-ce que ça vous coûte de participer à la louange collective? Qu'est-ce que ça vous coûte? Okay? Et ça peut être aujourd'hui en particulier, ça peut être en général. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse pendant ce chant-là, c'est qu'on offre de bon cœur notre temps. Qu'on offre de bon cœur l'organisation qu'il faut pour être là. Qu'on offre de bon cœur le fait qu'on a dû appeler 15 personnes hier pour avoir un covoiturage pour venir. Le fait que on n'a pas pu prendre de grâce matinée. Et on avait vraiment envie. Le fait que les amis sont appelés hier pour dire hey, on va à la plage ce matin. Tu viens? Non, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec la communauté qui va célébrer Dieu. Offrez à Dieu votre douleur, si vous en avez. Offrez à Dieu la frustration peut-être que vous avez par rapport à certaines choses. offrez à Dieu toutes les autres choses que vous auriez pu faire ce matin. Parce que ce qu'on fait ici, c'est qu'on aménage une place pour apporter un sacrifice. On dresse un autel, tous ensemble, pour apporter un sacrifice. Et Dieu voit le coup et il le reçoit comme un parfum agréable. Il le reçoit comme un parfum agréable. Et peut-être aujourd'hui, tout va bien. Et tant mieux, je dis, si c'est le cas. Mais il y aura des dimanches, il y aura d'autres week-ends où ça va coûter. Et j'aimerais simplement que ce que je viens de vous dire, que ça revient à l'esprit. Est-ce que je suis prêt à apporter un sacrifice de louange? Louer Dieu, ce n'est pas apporter un sacrifice de louange. Louer Dieu, moi je loue Dieu très souvent, mais parfois il faut un vrai sacrifice de louange. Parce que parfois ça ne me coûte pas grand chose de louer Dieu, parce que je suis tellement, j'ai tellement envie en fait, que le coup c'est si je ne le faisais pas. Mais parfois Dieu nous appelle à apporter un sacrifice de louange, et ça va coûter. Donc est-ce que je peux vous inviter à vous lever ?